Vous écoutez, on lit pour vous.
Boîtes à outils pour cyclistes curieux. Un texte de Marie Tison, paru le 18 avril 2026 dans la presse. La température se radoucit. Les oiseaux qui nous avaient quittés sont de retour. Les bourgeons éclatent. On se prend à rêver d'escapades à deux roues en montagne, dans les bois, sur les chemins de campagne ou sur la grande route. Même si notre expérience se limite essentiellement à la piste cyclable d'à côté. Vélo-Québec a justement assemblé sur son site Internet des boîtes à outils virtuelles à l'intention des néophytes qui voudraient se lancer dans de nouvelles aventures. Au Québec, il y a 7 familles sur 10 qui ont des vélos chez elles, indique Jean-François Rault, président-directeur général de Vélo-Québec. Le vélo fait partie de nos vies. Mais le vélo de montagne, le vélo de gravel, le vélo d'aventure, ce sont des nouveautés. On voulait des outils pour les gens qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus. On voulait leur donner du contenu pour susciter leur intérêt et peut-être les aider à se lancer. Vélo-Québec offre ainsi sur son site une série de textes et de vidéos pour démystifier chacune de ces pratiques. Dans chacun des cas, on se penche sur le matériel et les accessoires nécessaires, les compétences à acquérir et les règles de sécurité à respecter. Le vélo de montagne est un bon exemple, note M. Rault. Si on n'a pas nécessairement le bon matériel ou si on ne va pas dans les bons niveaux de sentier, on peut se retrouver avec une expérience déplaisante, voire parfois dangereuse. C'est ainsi que Vélo-Québec donne des conseils pour choisir son premier vélo de montagne en exposant les différents types de vélos existants et présente en vidéo les équipements de protection. Il énumère également les habiletés à maîtriser pour s'amuser à vélo de montagne, qu'on parle de la position du corps, de la gestion des montées et descentes, de la maîtrise du freinage ou de la lecture du terrain. Vélo-Québec suggère de se joindre à un club ou de suivre une formation de vélo de montagne pour accélérer sa progression. Il est également question de sécurité, ce qui commence par le choix du bon sentier. Qu'on parle du type de sentier, naturel ou travaillé, ou de son degré de difficulté. Vélo-Québec offre le même genre d'informations ciblées pour le vélo de gravier, puis pour le vélo d'aventure et le cyclotourisme. Dans le cas du vélo de gravier, par exemple, on discute du choix d'un itinéraire, ce qui implique la question du respect de la propriété privée. Il est important de valider le droit de passage sur les routes et les sentiers envisagés. Il faut également s'assurer de ne pas aller se promener dans les bois pendant les périodes de chasse. Comme l'itinéraire choisi peut traverser des milieux éloignés, la gestion des imprévus devient particulièrement importante. Vélo-Québec donne donc des informations sur la planification, l'identification des risques et la préparation d'un plan de mesures d'urgence. Il faut, évidemment, connaître les bases en mécanique de vélo et maintenir à jour ses notions de premiers soins. Vélo-Québec fournit une liste de matériel à apporter pour une sortie d'une ou de plusieurs journées. Dans la section sur le vélo d'aventure, bikepacking, et le cyclotourisme, on parle évidemment de la préparation d'un voyage de longue durée, ce qui comprend le ravitaillement et l'hébergement. Vélo-Québec suggère notamment des applications comme Komoot, Ride with GPS et Garmin Connect pour tracer son itinéraire. Avec ces boîtes et outils, nous avons un objectif en 3 points. Rappelle Jean-François Rault. Il s'agit de piquer la curiosité, rassurer les personnes qui sont hésitantes et donner le goût d'essayer de nouvelles pratiques de vélo. Par ailleurs, Vélo-Québec a également publié un guide sur le vélo en famille, offert gratuitement en ligne ou en bon vieux papier. On y trouve notamment une section « Grandir sur deux roues » qui permet de planifier les sorties en fonction de l'âge de l'enfant. C'est ainsi qu'entre 1 et 4 ans, il faut privilégier des sorties courtes avec des pauses fréquentes. Le jeu libre et l'exploration avec une draisienne sont la façon la plus sécuritaire et formatrice d'initier un jeune enfant au vélo, écrit-on. Entre 5 et 9 ans, c'est le temps d'apprendre à pédaler et à explorer. La priorité demeure le plaisir. Il faut donc choisir des parcours amusants. De 10 à 14 ans, l'objectif est de favoriser l'autonomie. Et de 15 à 17 ans, c'est la recherche de la liberté qui prend toute la place, avec la responsabilisation qui vient avec. Quand les enfants arrivent dans nos vies, on se demande parfois ce qu'ils peuvent faire, note M. Rowe. Ce guide-là est extrêmement apprécié parce qu'il répond aux questions que les parents peuvent se poser. Le chiffre de la semaine, 7,2 millions. C'est le nombre de vélos au Québec, selon les plus récentes statistiques disponibles, 2020. C'était « Boîtes et outils pour cyclistes curieux », un texte de Marie Tison, paru le 18 avril 2026 dans la presse.
Bien connaître son corps pour mieux bouger. Un texte de Fabrice Ville, paru le 30 avril 2026 dans La Presse. Imaginez si, à l'échelle du Québec, on négligeait l'enseignement des bases d'une matière comme les mathématiques. L'absurdité! Eh bien, c'est généralement ce que l'on fait avec les compétences somatiques. Somatique. Lorsque je donne des conférences dans des écoles, il m'arrive de demander aux élèves si ce mot leur est familier. Parmi les centaines de jeunes auxquels j'ai posé la question jusqu'à maintenant, aucun ne connaissait ce terme. Zéro. Je ne les blâme pas. J'ai moi-même dû attendre le début de la trentaine dans un cours de coaching professionnel, pour entendre parler de compétences somatiques. Il s'agit, grosso modo, de la capacité à ressentir son corps en temps réel et, dans les subtilités, à interpréter ce ressenti et à en tenir compte dans les actions quotidiennes. Ce ne sont pas des pouvoirs extraordinaires. Pensez à tout ce qu'on reconnaît grâce au corps plutôt que par calcul mental. On se sent énergique, fatigué, crispé, engourdi, détendu ou alerte. Ou encore, on discerne les émotions, qui, elles aussi, se manifestent par des sensations corporelles. Les compétences somatiques sont au cœur de l'activité physique. Contrairement à une croyance populaire, faire de l'exercice ne dépend pas seulement de la volonté de chacun. La possibilité de se maintenir en forme est toujours affectée par des facteurs environnementaux comme l'économie, les valeurs sociétales, l'urbanisme et la technologie. Considérant toutes ces variables, il n'existe pas de solution magique à la sédentarité. Cela dit, l'intelligence somatique constitue déjà un bon départ. Elle aide à comprendre ce que le corps exige pour son propre bien-être. Elle réduit aussi l'emprise des dépendances, des choix de consommation néfastes et des distractions freinant l'activité physique. Plus on est conscient de son corps, plus on peut résister à une fringale, éviter l'auto au profit du transport actif ou maintenir une routine d'entraînement malgré les envies d'abandonner. Le tout aide donc à faire perdurer l'activité physique, mais aussi à l'inscrire dans une vision de santé globale. Je le souligne parce qu'être en forme physique n'est pas garant d'une vie saine. Bien des gens s'entraînent d'une façon qui massacre leur corps, le traitant comme une machine. nombreux sont les athlètes qui se vouent à des compétitions sans cultiver le souci d'être actifs à long terme, ni même l'écoute de leur corps dans la vie de tous les jours. En fait, une personne apprend très jeune à inhiber les signaux corporels. À quelques exceptions près, dès le primaire, les élèves sont enfermés entre quatre murs. Ils apprennent à se bourrer le crâne en restant assis, immobiles, contraints de refouler les besoins de sommeil, d'agitation ou d'alimentation. Même aller aux toilettes est parfois interdit. Enfin, l'éducation physique prend très peu de place dans le cheminement scolaire qui se concentre surtout sur les forces cognitives. Dans de telles conditions, on ne peut s'étonner que la déconnexion du corps soit courante au sein de la population. Pourtant, la volonté d'entretenir les compétences somatiques est tout de même répandue. Ce n'est pas pour rien que, dans les dernières années, le yoga, la méditation et le tai chi ont gagné en popularité en Occident. Or, il ne faudrait pas attendre l'âge adulte pour exercer ces activités venues de pays orientaux. D'autant plus qu'elles sont trop souvent commercialisées à des prix élevés. Je me tourne donc encore vers le milieu scolaire parce que j'y vois beaucoup de potentiel de changement. Je sais que les enjeux de sédentarité dépassent le pouvoir des enseignants, déjà débordés, mais je me permets tout de même quelques pistes de réflexion pouvant être considérées même à l'échelle d'une seule classe. Selon moi, les élèves devraient être interrogés quotidiennement au sujet de leur état somatique. Peuvent-ils nommer leurs sensations? Reconnaître les symptômes de leur humeur du moment? Ce genre de questionnement simple leur permettrait d'apprendre à écouter leurs besoins et limites. Dans le même ordre d'idées, je crois que plus de liberté devrait être accordée aux élèves afin qu'ils répondent à leurs signaux internes comme la faim ou la soif. Des profs pourraient craindre une perte de contrôle, mais j'y vois surtout une occasion pour les élèves de développer l'autonomie et l'autodiscipline. Par ailleurs, afin de favoriser le mouvement, il me semblerait utile d'interrompre, durant les cours, les périodes d'immobilité des élèves, que ce soit par des étirements ou des pauses de respiration. Enfin, je crois que repenser la configuration de la classe elle-même importe, de façon à ce que bouger soit facilité. Et pourquoi ne pas veiller à ce que les élèves passent davantage de temps dehors, même pour les cours qu'on imagine seulement devant un tableau? C'est possible en délaissant l'enseignement magistral pour plus de jeux, d'exercices pratiques et de projets dynamiques. Ces idées ne sont pas révolutionnaires et certaines sont déjà appliquées par des équipes écoles. Cependant, leur simplicité n'affecte pas leur pertinence. Nous devons donner aux jeunes les moyens de mieux connaître leur corps. Si je rêve trop grand, commençons au moins par enseigner le mot « somatique » à l'école. Ce sera déjà ça de gagné. C'était « Bien connaître son corps pour mieux bouger ». Un texte de Fabrice Ville, paru le 30 avril 2026 dans La Presse.
La mort des autres. notre vie à nous. Un dossier de Rose Aimée Autonne T. Morin, paru le 8 avril 2026 dans la presse. Mélanie Noël craint la mort. En tant que journaliste, elle n'a pourtant jamais hésité à foncer vers le sujet. Comme pour le voir de près, mieux le comprendre. Puis, elle a poussé la chose plus loin. Elle s'est engagée dans une maison de soins palliatifs. L'expérience, entamée en 2023, a fait naître un livre publié aux éditions Somme Toute. La mort des autres est à la croisée du récit et de l'essai. Mélanie Noël y consigne ce qu'elle observe lors de ses journées de bénévolat à la maison de soins palliatifs Aube Lumière à Sherbrooke. Elle nous entraîne dans le quotidien d'un lieu important pour qu'on cesse de le craindre autant. Par la bande, elle dévoile des pans intimes de son rapport à la mort et explore l'histoire du deuil. J'apprends grâce à elle que la société victorienne estimait qu'on pouvait pleurer notre père pendant un an. Qu'au 19e siècle, il était bon pour un époux qui perdait sa femme d'attendre 3 semaines avant de prendre maîtresse. Que c'est le médecin montréalais Balfour Monte qui a inauguré la toute première unité de soins palliatifs au monde à l'hôpital Royal Victoria. Que la première maison de soins palliatifs du Québec a ouvert ses portes en 1985. Et qu'en 2023, on a compté 858 corps non réclamés à travers la province. Ici, les émotions côtoient les faits et les chiffres. C'est une approche dans laquelle on reconnaît à la fois l'autrice, la journaliste et l'ex-comptable qu'est Mélanie Noël. Pourtant, sa démarche bénévole ne s'inscrivait pas du tout dans un projet littéraire, au départ. C'est en faisant des reportages à la maison Aube Lumière que Mélanie Noël est tombée sous le charme de l'endroit qui accueille des personnes en fin de vie. J'avais observé comment c'est un lieu où on chuchote, dit-elle, où on sourit, où tout est dans la délicatesse et la douceur. C'est comme un îlot de chaleur humaine. Si elle passait du journalisme au bénévolat, c'était pour découvrir ce milieu-là sans attendre qu'un de ses proches soit condamné, pour apprivoiser ce qui est si dur à accepter, au fond. Dès la fin de sa première journée à ce qu'elle appelle « la maison », son amie Nathalie Platte, autrice et psychologue, a sommé Mélanie d'écrire sur son expérience. « Je l'en remercie parce que je crois aussi qu'on gagnerait à collectivement s'instruire sur la mort. J'en ai fait un documentaire, Le deuil en héritage, ici Radio-Canada, dans lequel on retrouve justement Nathalie Platte. J'ai beau m'intéresser de près au sujet, il m'en reste beaucoup à apprendre. » Pour preuve, lors de ma lecture, j'ai été étonné par la nature des tâches bénévoles en soins palliatifs. D'abord affectée à la réception, Mélanie Noël a mis 8 mois à apprivoiser l'idée de toucher les patients. Un pèlerinage vers le corps, dit-elle, qui l'a menée à nourrir des personnes, les laver, voire faire leur toilette une fois celle-ci morte. C'est ce qu'on appelle du bénévolat de fonctionnement, m'explique-t-elle. Les bénévoles ne sont pas formés comme les préposés aux bénéficiaires et y sont en tout temps accompagnés, mais leurs tâches ressemblent drôlement à celles rémunérées. Leur travail a une valeur humaine et financière incroyable. À la maison Aube Lumière, 430 bénévoles ont offert 26 154 heures d'ouvrage en une année, selon les calculs de Mélanie Noël. Tout ça pour aider leurs concitoyens à « mourir gratuitement dans ces lieux paisibles », écrit-elle dans son essai. Sans parler du dévouement des employés. On découvre dans la mort des autres des êtres exceptionnels. François est préposé aux bénéficiaires depuis plus de 30 ans et il arrive toujours 1 heure avant son quart de travail pour offrir de son temps. Angèle, elle, parle aux gens décédés tout en faisant leur toilette, parce qu'on ne sait jamais. C'est un cadeau que la société se fait que d'avoir ces maisons-là, souligne Mélanie Noël. Je le pense aussi. Or, comme elle écrit, seuls 14 % des individus dans le monde qui auraient besoin de ces services y ont accès en ce moment. Et avec le vieillissement de la population, on peut imaginer que ce nombre augmentera. Saurons-nous reconnaître l'importance de ces lieux? Alors, Mélanie Noël craint-elle toujours la mort? J'ai encore peur de perdre mes parents, puis mes enfants quand ils partent à vélo, et mon chum quand il part travailler. J'ai encore peur de traverser un pont. Mais c'est certain que j'ai atteint un autre niveau d'appréciation du moment présent, de la lenteur, de la douceur et de l'essentiel. Chaque jour, je suis encore plus contente de me lever. La mort m'intrigue toujours, mais elle ne me fige pas. Elle me donne de l'élan. C'est drôle parce que je te demande de parler de ton rapport à la mort, puis tu me parles de ton rapport à la vie. Tu sais, côtoyer la mort, ça nous aide à mieux vivre. Qu'elle me répond. C'était « La mort des autres, notre vie à nous ». Un dossier de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 8 avril 2026 dans la presse.
Sirop d'érable frelaté. Des inquiétudes quant à l'impact sur la réputation de l'industrie. Un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. Le président de l'Union des producteurs agricoles, UPA, Martin Caron, se désole du tort causé à la réputation des acériculteurs à la suite du dévoilement par Radio-Canada que l'un d'entre eux, Steve Bourdeau, de Saint-Chrysostome en Montérégie, coupait son sirop d'érable avec jusqu'à 50 % de sucre de canne. Les producteurs acéricoles, ils ont une fierté. Ce sont des gardiens de patrimoine de génération en génération. Quand ça arrive, une situation comme ça, les gens peuvent remettre en question toute cette communauté-là qui est fière d'avoir un produit de qualité. Et puis là, du jour au lendemain, ça soulève le doute, a-t-il déclaré en entrevue avec la presse canadienne jeudi. « Je peux comprendre les gens, les consommateurs, qui se posent des questions », a-t-il poursuivi. « Mais je veux les rassurer en même temps, parce que les gens mettent quand même leur nom sur les étiquettes. C'est une fierté. Autant qu'ici, au Québec, on met notre nom sur les silos, sur les fermes, autant les producteurs acéricoles sont fiers de mettre leur érablière sur les cannes. Un producteur veut avoir un produit de qualité par rapport à ça. » Il note que cet incident survient alors que la consommation de sirop d'érable est en hausse, non seulement au Québec, mais aussi à l'échelle planétaire. Ça nous amène à dire, que ce soit avec le ministère de l'Agriculture du Québec ou avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il va falloir trouver une façon de faire pour contrôler davantage ces aspects-là, pour ne pas que ça arrive, avance-t-il. Une pratique de vente marginale. Il rappelle toutefois que tout le sirop qui se retrouve dans ce que l'industrie appelle la réserve stratégique de sirop d'érable est analysé avant d'y être entreposé. Les gens là-bas n'ont eu aucun sirop qui a été altéré en je ne sais pas combien d'années. Il n'y a jamais eu rien. Les gens qui y envoient des bidons, il y a des tests qui sont faits. Il n'y a pas eu d'altération. La réserve stratégique a un contrôle vraiment efficace présentement. Il faut préciser que Steve Bourdeau vendait directement son sirop aux détaillants et épiciers, évitant ainsi les contrôles des producteurs et productrices acéricoles du Québec, PPAQ. Or, seulement 2 % des volumes de sirop d'érable sont distribués de cette manière. Il s'agit d'ailleurs de la première fois de leur histoire que les PPAQ sont confrontés à une falsification du sirop d'érable. La réputation des producteurs québécois est cruciale dans un marché où le Québec est responsable de 72 % de la production mondiale du nectar ambré. C'était Sirop d'érable frelaté, des inquiétudes quant à l'impact sur la réputation de l'industrie. Un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
Le flânage demeurera interdit dans le métro de Montréal au moins jusqu'au 30 avril 2027 afin d'empêcher les personnes en situation d'itinérance de dormir sur les quais et dans les couloirs. La Société de transport de Montréal affirme que la mesure porte ses fruits, mais les ressources en itinérance disent en encaisser les contre-coups. Pour améliorer l'achalandage du métro, la STM soutient devoir renforcer le sentiment de sécurité dans le réseau. Flâner dans le métro sans se déplacer n'est plus toléré depuis mars 2025 en raison d'une hausse importante de la présence de personnes en situation d'itinérance. Les constables spéciaux peuvent désormais demander à une personne de quitter le réseau, même sans infraction observée. Cette mesure, appelée « obligation de circuler », avait d'abord été présentée comme temporaire, mais elle a été renouvelée à plusieurs reprises. Selon la STM, l'interdiction a été appliquée près de 2500 fois par mois. Elle aurait contribué à une baisse des interruptions de services liées à des méfaits volontaires, ainsi qu'à une diminution de certains incidents. Le transporteur affirme également que les agressions envers ses employés se sont stabilisées après une hausse marquée. Cependant, cette politique est fortement critiquée par le milieu communautaire. Selon des intervenants, la détresse des personnes en situation d'itinérance s'est accentuée dans les ressources d'aide depuis la mise en place de la mesure. Des organismes rapportent une pression accrue sur leurs services, avec des capacités largement dépassées lors des périodes de froid. Les intervenants observent aussi une plus grande instabilité chez ces personnes, dont le rythme de vie et l'état psychologique sont davantage perturbés. Du côté des groupes communautaires, on souligne qu'un grand nombre de personnes sont expulsées du métro sans solution concrète de relocalisation. La question centrale demeure : où ces personnes peuvent-elles aller ? La STM reconnaît que l'obligation de circuler ne peut être l'unique réponse et affirme qu'elle s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité du réseau. Les autorités municipales indiquent, pour leur part, travailler avec différents partenaires afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance vers des ressources adaptées. D'autres actions ont également été mises en place, comme la fermeture de certaines entrées de métro, l'augmentation de la surveillance et la mise en service d'un système de signalement par message texte. Malgré ces efforts, le sentiment de sécurité des usagers demeure en baisse comparativement aux années précédentes. Par ailleurs, des recommandations ont été émises afin de mieux protéger les employés du réseau, notamment en évitant les interventions en solo dans certaines stations. C'était « Le flânage restera interdit, les ressources disent écopées », un texte de Henri Ouellet-Vézina, paru le 28 avril 2026 dans la presse.